La FAO publie aujourd'hui la dernière édition de son rapport trimestriel sur les forêts à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la vie sauvage. Le rapport souligne le besoin d'associer les communautés autochtones et locales à la conservation de la faune, ainsi que la position de l'organisation concernant la question un peu plus controversée de la chasse aux trophées. Nous sommes avec Madame Shaila Wertz, fonctionnaire principale chargée des forêts au siège de la FAO. Madame Wertz, bonjour.
Bonjour.
La FAO se préoccupe-t-elle du fait que certaines communautés locales ne sont pas assez habilitées à s'engager dans les activités de conservation de la faune sauvage ?
Oui, toute situation où une communauté locale manque le pouvoir de s'engager dans la conservation de la faune sauvage doit être un sujet de préoccupation. Et ceci car les communautés autochtones ont une compréhension approfondie de l'écologie de la faune, des pratiques de gestion efficaces pour assurer la survie des générations futures, à la fois des humains et des animaux. Et leur expérience est une source précieuse de connaissances pour développer des programmes de conservation et de gestion durable. Les voix des autochtones sont heureusement de plus en plus entendues et écoutées dans les forums internationaux tels que la Convention sur la diversité biologique ou CITES, donc la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction. Et en outre, la FAO est membre du partenariat collaboratif pour la gestion durable de la faune sauvage, le CPW, qui reconnaît le rôle clé des communautés autochtones à cet égard. Le CPW que je viens de mentionner travaille en étroite collaboration avec le Forum international indigène sur la biodiversité et cette collaboration permet de s'assurer que les connaissances et les expériences acquises par les individus et les communautés autochtones au niveau local sont partagées et entendues à l'échelle internationale.
La question de la chasse aux trophées figure également dans le rapport. Pourriez-vous nous en dire davantage sur la position de la FAO et nous expliquer pourquoi ce problème devrait être abordé ?
Les travaux de la FAO sur la faune sauvage portent principalement sur les conflits homme-faune et la gestion de la viande de brousse. La chasse aux trophées est évidemment un sujet controversé et la FAO, elle n'a pas de position propre à cet égard. Ceci étant, la chasse aux trophées peut générer des résultats positifs pour les peuples autochtones et les communautés locales. Il faut cependant veiller à respecter une condition cruciale qui est que les activités de chasse aux trophées soient gérées de manière réelle et efficace, dans un cadre de gouvernance claire et équitable. Et dans ce contexte, il est important de ne pas confondre la chasse aux trophées avec le braconnage, car le premier devrait être légal et réglementé, alors que le braconnage est une pratique illégale pouvant entraîner des déclins dans les populations animales chassées. Donc, pour atteindre les résultats positifs, il faudra veiller à une participation effective des populations locales et autochtones dans la prise de décisions autour de la gestion de la faune sauvage, mais aussi un partage des bénéfices appropriés, c'est-à-dire que, par exemple, les revenus reviennent effectivement envers les communautés qui sont engagées, impliquées dans la chasse aux trophées. Car seulement avec cela, on peut assurer qu'au final, sera aussi un effet positif sur la sécurité alimentaire.
Pourriez-vous citer un ou deux exemples illustrant l'impact positif que le fait d'aborder ces questions a eu sur la sécurité alimentaire ?
La FAO, avec des partenaires, a développé une boîte à outils de conflits homme-faune et celle-ci a été utilisée pour aider une communauté locale, par exemple au parc national Crystal Mount au Gabon, pour prendre des mesures concrètes contre les conflits et à protéger leur culture agricole. Beaucoup d'animaux, par exemple les antilopes ou les éléphants, détruisaient des cultures entières des communautés locales et menaçaient ainsi leur sécurité alimentaire et leurs moyens d'existence. Par ailleurs, les lois interdisent à ces agriculteurs de prendre des mesures en chassant les animaux protégés, soit pour la viande, soit pour protéger leur culture. Alors, dans ce cas-là, les solutions offertes par la boîte à outils proposaient de clôturer les plantations pour empêcher les animaux d'atteindre ces cultures, d'allumer des feux ou faire du bruit pour effrayer les animaux, ou alors de poster des gardes pour surveiller des plantations la nuit.
Et enfin, en quoi ces questions sont-elles liées au problème plus vaste de la sécurité alimentaire au sein des pays?
Dans de nombreuses régions, les communautés rurales sont confrontées à des conflits homme-faune qui affectent leur sécurité alimentaire. Ceci se réfère d'une part à la destruction des cultures, par des éléphants par exemple, qui constitue la forme la plus répandue des conflits homme-faune. D'autre part, il s'agit de la mort d'animaux domestiques. Pour de nombreuses populations rurales, les animaux domestiques, comme le bétail, sont leur seule source de revenus. Et les prédateurs, comme les lions, tuent souvent de nombreux animaux domestiques dans une rafle et peuvent ainsi dévaster la sécurité alimentaire et les moyens d'existence d'un ménage. Enfin, les communautés locales comptent aussi souvent sur la faune sauvage pour leur apport en protéines. La valeur que la faune a pour la sécurité alimentaire locale est illustrée, par exemple, par le fait que, dans plusieurs langues bantoues, le mot nyama est utilisé pour la faune, mais signifie aussi la viande. Nous considérons que la gestion durable de la faune sauvage est donc essentielle pour assurer la sécurité alimentaire dans de nombreux pays.
Je vous remercie, Madame Verte.
Merci beaucoup.